La RTT utilise déjà des liaisons par fibre optique sur plusieurs sections de son réseau.
J'adore ces vieux reportages d'il y a 30 ans qui parlaient de l'avenir.
La conjugaison de la fibre optique et de la technologie numérique ouvre sur un fantastique avenir.
L'annonce d'un futur enchanté et d'un incroyable téléphone fixe.
On pourra brancher sur une ligne unique toute une série d'appareils différents. Téléphone, télétexte, téléfax, Minitel, accès aux banques de données, possibilité de télépaiement. Alors, à quand le visiophone ou la télédistribution sur votre ligne téléphonique?
Aujourd'hui, on a tout ça et bien plus dans nos poches, sur nos smartphones.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches, c'est une expression belge. Un peu dégoûtante, un peu film d'horreur. Celui qui dit « après moi, les mouches » dit qu'il s'en fiche en fait de ce qui vient après. Le climat, les suivants. Ce podcast va écouter les suivants. Les jeunes Européens qui devront gérer la Terre, notre cocon qui prend l'eau. Cet épisode va parler de notre connexion, notre hyperactivité sur Internet. Elle peut servir à se mobiliser pour le climat, mais elle pollue aussi. Est-ce que le numérique participe au problème climatique ou plutôt à la solution? Vous allez sur quels réseaux sociaux?
Instagram. Tous un peu, Instagram, Snapchat, Facebook.
Surtout Instagram.
Bah, moins ouais. Facebook, c'est plus pour les vieux.
Moins Facebook, ouais, c'est vrai que maintenant, dessus, c'est un peu démodé, mais on y va quand même un peu de temps en temps.
Et YouTube?
Oui, bien sûr, ouais, YouTube, énormément. Ouais. Netflix et tout ça, ouais, tout ce qui est pour regarder des choses. Ouais.
Ce sont des élèves de fin de secondaire à Amé, en province de Liège. Ça représente combien de temps sur la journée, par exemple?
Oula, c'est énorme.
Ouf, moi, énorme.
4-5 heures.
Moi, j'ai une moyenne de 8 heures par jour.
Parce qu'on a des notifications qui nous donnent notre moyenne. Et ouais, on est souvent dans les 7-8 heures d'utilisation.
Ça vous donne pas un peu le vertige?
Non, franchement, non, moi pas. Moi, maintenant, on est habitué à tout ça, donc on va dire que ça fait rien, en fait. Juste...
Bah, des fois, ouais, on se dit qu'on perd un peu notre temps sur les réseaux, quoi. Ouais, mais... ça.
Moi, j'utilise plus pour m'endormir qu'autre chose. YouTube et tout, Netflix. Parce que sinon, j'arrive pas à dormir, mais ça, c'est un problème personnel. Mais sinon...
Ouais, c'est vrai que ouais, on sort quand même blindé malgré ça, donc on utilise pour parler entre nous qu'en soit, donc c'est pas comme si on faisait rien, quoi.
Bah, tout ce qui est réseaux sociaux et tout, ça rapproche les gens, c'est bien aussi, mais il y a un côté négatif aussi, tout ce qui est harcèlement aussi. Enfin, il y a des avantages et des inconvénients, quoi. C'est compliqué de faire la part des deux, quoi.
Et dans les côtés un peu négatifs, il y a aussi la pollution que ça crée, qu'on ne voit pas. Est-ce que vous avez l'impression d'être bien informé là-dessus?
Non, pas du tout. Non, on n'y connaît rien. On se doute pas que ça pollue si on va sur Instagram ou Snapchat. Donc on sait rien sur ça.
On nous a jamais rien dit. Nous on va dessus et c'est tout. On n'en parle jamais. Je suis jamais tombé sur une vidéo où on dit les effets néfastes des réseaux sociaux sur l'environnement. Sur l'état moral de certaines personnes, oui. Ça souvent, mais sur l'environnement, jamais.
Est-ce que Vince Canté en a déjà fait une vidéo sur les réseaux sociaux? Vince Canté est influenceur et animateur, et d'après ce que je vois en arrivant à notre rendez-vous, bah, il est aussi connu dans son quartier.
Ok, oh, salut, tu vas bien? Et toi?
Ça va, papy, tranquille?
Que sur les réseaux sociaux.
Je suis le petit gars du quartier, quoi.
Et sur les réseaux sociaux, t'as quand même une belle popularité. Et combien de followers, par exemple, sur Instagram?
Bon, sur Instagram, il y a, je crois, 50 000 followers. Sur Facebook, il y en a 300 000. Et Twitter, je crois, 20 000, un truc dans le genre. C'est quelques zéros, quand même.
Sur son Instagram, il y a des années de photos de ses événements de DJ, des concours liés aux émissions radio qu'il a animées avec des téléphones à gagner et aussi des voyages. Mais il m'a fait un drôle d'aveu.
Il y a un gros paradoxe immense, c'est que j'ai toujours détesté les réseaux sociaux. J'ai toujours...
Alors ça, ouais. C'est un truc que je ne comprends pas. Donc t'es à fond sur les réseaux sociaux, t'as tous ces followers-là et tu détestes.
Ouais, je trouve que ça a beaucoup influencé ma manière de voir la réalité et de voir les choses essentielles. À un moment donné, quand on commence à avoir beaucoup d'abonnés, on commence plus à penser à qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui permet d'avoir du like, du commentaire, du partage, des vues, et que forcément, bah, qu'est-ce qui permet d'avoir des vues, ça permet aussi d'être sponsorisé, d'avoir des partenariats. Mais à un moment donné, quand ça devient vraiment l'objectif, on en perd complètement le sens. Et je me sentais prisonnier de quelque chose qui, en amont, je déteste.
Et Vince m'explique que ce malaise a gonflé au point qu'il a dû changer de cap. handicap. Et ses publications ont changé du tout au tout. Plus de voyages, plus de smartphones à gagner. Il utilise son audience sur les réseaux sociaux, sa communauté, pour diffuser des infos sur les enjeux climatiques.
Il y a eu un moment donné où je suis un peu tombé de ma chaise par rapport aux réalités physiques, aux réalités des limites planétaires, que ce soit les rapports du GIEC, que ce soit tous les rapports autour de la biodiversité. Il y a eu énormément de choses qui m'ont fait vraiment littéralement tomber de ma chaise, où je me suis dit, mais merde, je peux pas continuer à fonctionner comme je le fais au quotidien en étant conscient de ça, puisque ma manière de fonctionner, ma manière de vivre, et surtout ce que je mets en avant sur les réseaux sociaux, est délétère pour la planète. Et donc là, à ce moment-là, tu tombes, quand je dis tu tombes de ta chaise, en fait, tu tombes d'un immeuble. Et donc, du coup, j'ai décidé à ce moment-là d'opérer un virage à 180 degrés. Le message va peut-être pas être compris par tout le monde. Peut-être que ça va être très bizarrement pris aussi par mon public de base. Mais je me suis dit, je dois le faire déjà pour mes enfants. Au moins pour eux, il faut que je donne tout sur les réseaux sociaux, quoi.
Le meilleur conseil que je peux vous donner en 2022, c'est de ne pas tomber dans le piège du greenwashing. Allez, c'est parti pour le top 10 sur le greenwashing. Alors Netflix, net zéro émission. Non.
Ça n'a pas été simple. Vince a reçu des insultes et il a constaté que ses contenus climat étaient moins visibles que ses anciennes publications, moins mis en avant par les algorithmes des réseaux sociaux. Il n'empêche, entre ses mains, le numérique est un outil assez génial pour l'environnement. Et il y en a plein d'autres. Des applis pour économiser l'énergie, pour cultiver en polluant moins, pour partager des véhicules, pour vérifier l'empreinte écologique, par exemple, de nos céréales le matin. Mais il y a un souci, cet outil est polluant. Sur le chemin du retour, je me demande ce qui est le plus écologique. Aller faire cette interview de Vince, comme ça, en métro, ou bien par vidéoconférence. Ce métro consomme de l'électricité, mais mon ordinateur connecté aussi. J'ai cherché quelqu'un pour tirer ça au clair, par Skype cette fois-ci.
Oui, Guillaume Pitron, journaliste, réalisateur, je vous appelle de Paris, ensoleillé. J'espère que c'est pareil chez vous.
Guillaume Pitron a écrit un livre qui s'appelle « L'enfer numérique, voyage au bout d'un like ». Il commence par expliquer que mon ordinateur consomme de l'électricité, c'est vrai, mais que ce n'est pas la source principale de pollution numérique pour ce Skype. Il a aussi fallu fabriquer mon ordinateur et le grand écran plat. C'est plein de matières premières à extraire des sols. Plus la pollution de l'usine et du transport. Et à tout ça, il faut encore ajouter une pollution qu'on ne soupçonne pas, liée à Internet même, à chaque action sur le web, même un like ou une vidéo.
Poster une vidéo naturellement pollue, cette vidéo, elle doit être téléchargée depuis un centre de stockage de données, c'est-à-dire un immense hangar dans lequel se trouvent les serveurs, dans lesquels est enregistrée la mémoire du monde. Il y a 3 millions de centres de données sur Terre. Se connecter à un centre de stockage de données, ça implique d'avoir une box Wi-Fi, de la fibre, d'être connecté à une antenne 4G. La distance qui nous sépare d'un data center, elle est occupée également par des câbles souterrains et sous-marins. En fait, pour regarder une simple vidéo, envoyer un simple like, nous sommes chaque jour connectés à une infrastructure gigantesque qui est faite de métaux, de béton, de fibres optiques, une infrastructure qui est alimentée par de l'électricité, elle-même produite avec du charbon, du gaz naturel, du pétrole, de l'uranium. Et cette infrastructure est en passe de devenir la chose la plus vaste que l'homme n'ait jamais construite.
Et puis là, Guillaume Pitron me donne un chiffre. Aujourd'hui, le numérique émet 4% des gaz à effet de serre. C'est plus que les avions. Et ça augmente en flèche puisqu'on est de plus en plus connectés, nous et nos objets. Bon, vu cette description, est-ce que cette conversation par Skype est plus polluante que si j'étais allé à Paris en train ?
Si vous étiez venu en train jusqu'à Paris pour réaliser cette interview, vous auriez consommé beaucoup plus d'électricité que si vous m'aviez interrogé sur Skype. Donc en ce sens, Internet permet de limiter l'impact environnemental de certaines de nos actions.
Mais il y a un mais, parce que le temps que je gagne en restant à Bruxelles, si je l'utilise pour faire d'autres interviews par Skype, plus une longue vidéoconférence, plus éventuellement acheter du matériel informatique, puisque c'est si bénéfique, eh bien l'intérêt écologique de faire un Skype va être annulé.
C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, un accroissement des usages, parce que la technologie est plus simple à utiliser et moins polluante. Et donc il faut contrebalancer d'un côté les coûts et les bénéfices, avec à l'arrivée une question que tout le monde se pose, c'est quel est le solde ? Est-ce qu'Internet permet de contribuer davantage à la préservation de l'environnement ? Ou est-ce qu'au contraire, il aggrave l'impact de l'homme sur l'environnement ? Et cette question-là, personne ne sait y répondre. Personne ne sait si finalement Internet est meilleur que moins bon pour la planète. Ce qui est sûr, C'est que depuis 10, 15, 20 ans qu'on parle de numérisation du monde, depuis toutes ces années où on parle des bienfaits du numérique sur l'environnement, et bien en même temps, on parle depuis 20 ans toujours plus de réchauffement climatique.
Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire pencher la balance du bon côté, pour que le numérique soit plus un allié qu'un poids pour la planète ? Dans le livre de Guillaume Pitron, et puis aussi sur Internet, bah oui, j'ai trouvé des pistes pour tout le monde. Pour les décideurs européens, l'Europe veut développer le numérique. Elle va devoir développer aussi un cadre légal pour limiter cette pollution. Sinon, elle pourrait rater un autre grand chantier européen, le Green Deal pour le climat. Les industriels, eux, ils peuvent travailler à des téléphones, des écrans plus propres. Les géants du web comme Google, Facebook, ils ont aussi du travail, notamment pour utiliser une électricité plus verte dans les centres de données. Et nous, on peut déjà changer moins souvent de portable et de matériel informatique. Et puis aussi, s'empiffrer moins de superflu sur Internet. Cette idée-là a fait germer chez Cola un projet que j'ai découvert entre deux paninis. On se trouve dans une odeur de pain chaud, dans une cafétéria remplie d'étudiants qui sont en pause de midi entre deux cours.
Mais du coup, bonjour, je m'appelle Cola Van Morsel, j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'IEX en Master 1 en Relations Publiques, donc c'est des études de communication, et je suis également activiste pour la justice climatique, avec un mouvement pour les jeunes en Belgique qui s'appelle Youth for Climate.
Cola, lui, il mangera plus tard, parce que pour sa pause, eh ben, il a prévu plusieurs appels et notre rendez-vous.
Poster des photos de nous à chaque fois qu'on part en vacances, est-ce que ça nous rend vraiment heureux de faire ça ? Ça nous a rattrapé en fait. La technologie, elle a été ultra vite ces dernières années. Et je pense qu'il y a déjà un tournant là-dedans. Je vois déjà beaucoup de jeunes autour de moi qui sont de moins en moins intéressés par les réseaux sociaux, qui sont de moins en moins intéressés de poster toute leur vie là-dessus et qui préfèrent être dans des moments présents. Et je pense que si le Covid nous a appris une chose aussi, c'est peut-être ça aussi. Sur les réseaux sociaux, je pense qu'une grosse majorité, c'est de la consommation, juste promouvoir le physique pour s'élever au-dessus des autres.
Mais on pourrait pas faire le tri et dire ne peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux, donc ne peuvent polluer d'une certaine façon que ce qui est utile à la société. Ce serait se poser en police de la pensée.
Oui, effectivement, ce serait compliqué, ça irait à l'encontre de la liberté d'expression. Par contre, je pense à une nouvelle campagne de Greenpeace, pour l'instant, qui veulent interdire les pubs qui sont mauvaises pour le climat. Et donc ça, je pense que si on limite ça sur les réseaux sociaux, c'est top.
Mais plutôt qu'essayer de changer les réseaux sociaux de l'intérieur, Cola s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas un nouveau réseau social plus sain ?
Ça s'appelle Curve et c'est un lancement. C'est-à-dire que ce n'est pas encore public. Moi, je fais partie d'un groupe d'une centaine de jeunes à travers le monde, des changemakers, comme ils nous appellent, des activistes, des artistes. Donc, en fait, des personnes qui essayent d'aller vers une société plus juste, plus durable et plus respectueuse de l'humain. Et l'idée, c'est que sur ce réseau social-là, il n'y a pas de likes, pas de followers, pas de publicité. En fait, c'est juste, on se partage du contenu. Et ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, mon but premier, c'est d'avoir de l'impact. C'est pas d'avoir 10 000 followers. J'ai pas envie d'être connu, les gens nous critiquent, c'est pas du tout marrant. Par contre, je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les outils qui sont à notre disposition, pas Curve, c'est qu'il faut passer par une certaine forme de visibilité, d'être un influenceur, en fait, pour avoir de l'impact.
Tu penses que Curve pourrait en arriver à être un réseau social qui a vraiment une portée aussi large que les autres ?
J'ose l'espérer. J'ai un problème pour l'instant, moi. C'est que je trouve que ce que TikTok et les autres ont bien réussi à faire, c'est que justement, il y a ce côté où comme on est éduqué à être plus individualiste et à s'élever au-dessus des autres, parce que c'est ça le prestige et le fait d'avoir une haute place dans la société, être riche, c'est un peu comme ça qu'on voit le succès aujourd'hui. J'ose espérer que Curve changera ça, mais j'ai un peu peur que parfois ça ne touche pas tout le monde de la même façon. Mais peut-être que c'est une bonne première étape.
L'école de Cola est en plein centre de Bruxelles. Du coup, en sortant, je me retrouve dans une foule de touristes qui fait un petit selfie devant Mannequin Peace, une story devant une gaufre au sucre et une bière. La sobriété, bah, y a encore du chemin. C'était un podcast RTBF Euranet Plus, réalisé par
Myriam Ball
et Christophe Bernard. Une série à découvrir sur Ovio, rtbf.be ou votre plateforme de podcast préférée.
Mieux comprendre l'Europe avec Euranet Plus, le premier réseau d'information européenne.